Point de mire.
Une association, une œuvre, une fondation.
Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Une action, une organisation, une institution.
On retrouve Philippe Laburte-Tolerin.
J'ai le plaisir d'accueillir ici Vincent Battesti, qui est l'auteur de grands travaux sur les oasis du Sahara, spécialiste de toute la zone au sud du Maghreb et même de l'Égypte où vient de passer plusieurs années. Alors Vincent Battesti, est-ce que tu peux me dire pour quelles raisons tu as eu envie d'adhérer à la Société des Africanistes ?
Bonjour. Alors effectivement, je suis ethnologue et j'en fais partie de cette société depuis quelques années. J'avais été introduit à l'époque par deux parrains, comme ça cela se fait. L'un d'eux était toi-même et l'autre Serge Bahuchet du Muséum National d'Histoire Naturelle. Alors savoir pourquoi je suis rentré, j'avoue que à l'époque je connaissais assez peu la société des africanistes, ce qui s'y faisait, les motivations de ce... et mon premier élan d'abord a été de me dire que c'était par amitié pour toi-même que je m'y étais inscrit, avant de me rendre compte de l'ampleur de cette société.
Oui, effectivement. D'ailleurs, je remplissais mon office de recruteur. J'étais déjà président dans ce temps-là de la Société des Africanistes. Et nous avons le souci de trouver des jeunes, comme tu es encore, n'est-ce pas, pour assurer la relève de la société. Alors, évidemment, la société, elle a pour objet de rassembler tous ceux qui s'intéressent à l'Afrique pour quelque raison que ce soit. C'est-à-dire, en général, nous essayons de trouver les intellectuels qui sont africanistes, ce qui est ton cas, mais nous pouvons aussi bien rassembler des artistes, des photographes, des poètes, des écrivains.
S'il s'agit d'une société savante, elle ne se restreint pas pour autant aux ethnologues ou aux savants eux-mêmes.
Voilà, exactement. C'est une société qui regroupait d'ailleurs au départ, quand elle a été fondée en 1930, énormément de gens qui n'étaient pas spécialistes de l'Afrique, en particulier la fine fleur de l'ethnologie française à l'époque, c'est-à-dire Lévi Brull, Marcel Mauss, etc., qui appuyaient simplement la connaissance de l'Afrique. Et il y avait évidemment des militaires, par exemple, des administrateurs, qui à cette époque étaient très nombreux. Et le premier président de la société a été le général Gouraud.
Alors, est-ce qu'on peut supposer que l'objet de la Société des Africanistes, au moins au début, plus que rassembler des gens qui avaient déjà un discours de connaissance sur l'Afrique, rassembler des gens qui étaient désireux que les connaissances se complètent sur l'Afrique ?
Mais je crois que ça rassemblait des gens qui aimaient l'Afrique et les Africains, ce qui n'était pas forcément le cas de tous ceux qui partaient outre-mer. Hein. Alors, il y avait, si vous voulez, en même temps que la création de la Société africaniste, l'exposition coloniale en 1931, exposition coloniale internationale, et la Société des Africanistes voulait une sorte de contrepoids à l'exposition coloniale qui montrait les bienfaits de la colonisation, mais il fallait montrer aussi la beauté des cultures indigènes, comme on disait à l'époque, n'est-ce pas ? C'est-à-dire à l'époque, pour ce qui concerne l'Afrique, africaine.
Donc à l'époque, c'était une manière de contrebalancer le discours de civilisation française ?
Voilà, c'est ça. C'était une manière de faire un contrepoint à cette civilisation. Et c'est pour ça que la société, au départ, regroupait des artistes, des écrivains comme Michel Léris, qui en a tiré un livre important, L'Afrique fantôme, des poètes. Par exemple, l'un des premiers correspondant étranger fut l'Allemand Karl Einstein, qui avait été le découvreur de la idéologique de l'art nègre. Bon, parce que Picasso avait eu un choc en voyant Les Demoiselles d'Avignon, n'est-ce pas, en 1906, c'est célèbre, mais ce n'était pas quelque chose de raisonné, c'était une émotion qu'il a traduite aussitôt dans ses œuvres. En revanche, la première réflexion sur l'art africain a été faite par... La première étude d'art africain a été faite par Karl Einstein en 1917, pendant la guerre. Et à ce titre, Il a été le premier correspondant étranger élu en 1930. En même temps que ça regroupait, la société regroupait un certain nombre de personnes morales, à commencer par, je pense qu'elle en est peut-être toujours membre, par la maison d'édition des presses universitaires de France, les PUF, n'est-ce pas, qui était membre de la société, et un certain nombre de musées.
Alors, est-ce qu'il ne sait pas faire un peu trop d'angélisme que de parler que d'amour de l'art ou d'amour de la civilisation africaine ou les connaissances sont quand même un instrument de pouvoir. Connaître le fonctionnement de l'Afrique au niveau politique, au niveau ethnique, c'était pouvoir pour les administrateurs et le colonisateur français.
Effectivement, ça pouvait être pris dans ce sens et d'ailleurs, c'était l'optique des Britanniques. C'est pourquoi ils ont été très en avance sur la pratique française, puisqu'ils ont eu très tôt un anthropologue, un ethnologue du gouvernement dans les organisations, dans l'administration des territoires où ils prenaient pied, suivant diverses modalités, d'ailleurs protectorat, enfin traité, c'était en général orienté vers le gouvernement indirect. Ce qui n'a pas été la politique des Français, qui était d'abord dominée par la première tendance héritée du siècle des Lumières, qui était de vouloir apporter les Lumières de notre inégalable civilisation, dont on pensait qu'elle était la seule possible.
Bon. Et comment on pouvait conjuguer ça ?
Alors, ça s'opposait...
Avec un désir de connaissance.
Non.
De connaissance locale, c'est-à-dire comment on pouvait à la fois se dire... porteur de la civilisation et en même temps, à travers la société des africanistes, s'intéresser à ce qui faisait sens localement.
Mais je dirais qu'il y a un mouvement dialectique à ce moment-là. C'était le cas. Par exemple, chez les Britanniques, j'ai pris l'exemple des Britanniques, Evans Pritchard fut de cette façon-là ethnologue de l'administration des territoires britanniques, Kenya, etc. Mais il a tout de suite étudié tellement profondément la façon de penser, la façon d'agir des gens du pays, que ses ouvrages restent jusqu'à présent parmi les rares recherches qui n'ont pas été contestées, qui sont même appréciées des Africains eux-mêmes. Bon, comme chez nous, ce qu'a fait Maurice de la Fosse. Maurice de la Fosse, qui avait été directeur de l'école coloniale à l'époque, en même temps a pris le parti des gens qu'il dirigeait, qu'il observait en Afrique. Et ça a été tout le temps un balancement entre deux tendances qui s'est maintenu jusque maintenant. Par exemple, Roland Collin vient de publier un livre qui s'appelle Kénédougou, où il explique comment il s'est fait mal voir des gouverneurs du Mali, c'était dans le Soudan français de cette époque, parce qu'il apprenait les langues du pays et parce qu'il essayait de comprendre les Sénoufo. Et il a même participé à des initiations Sénoufo, et son livre est très intéressant de ce point de vue-là, pour, comme témoignage d'empathie, de communion. Donc, de quelqu'un qui était formé à l'école coloniale avec les sociétés qu'il était chargé d'administrer.
Et est-ce que la société des africanistes a vraiment rassemblé tous les... Bon, notamment les amoureux de l'art, de l'Afrique, etc. Mais aussi tous les savants concernés par l'Afrique ?
Au départ, oui.
Au départ, oui.
Au départ, bien sûr, parce qu'ils étaient très peu nombreux. Le premier ethnologue, on peut dire, formé... Bon, jusque-là, nous avions des ethnologues de cabinet... C'était le cas même de Marcel Mauss, des gens qui lisaient ce qu'avaient écrit les explorateurs.
Les administrateurs.
Ou les administrateurs, ou les missionnaires. Il faut bien dire que le point de départ de l'ethnologie, c'est les lettres curieuses et édifiantes des jésuites au XVIIIe siècle, n'est-ce pas ? Et les rapports des missionnaires depuis le XVIe siècle concernant l'Amérique. Bon, en particulier, d'ailleurs, le rapprochement était tout de suite fait, quand on a encore une fois une culture humaniste, c'est facile, entre ce qu'on découvrait en Amérique et puis ce qu'on savait de l'Antiquité classique. Alors, pour en venir à ce qui s'est passé, Griot lui-même a fait des études de la langue amharique, la langue d'Éthiopie, puis après, il a trouvé nécessaire d'aller voir ce qui s'y passait. Il est revenu d'Éthiopie avec les cahiers d'un médecin, d'adaptara, d'un savant local. L'Éthiopie était, j'allais dire, connu depuis longtemps comme l'un d'endroits qui avait l'écriture et qui avait gardé le christianisme depuis avant les Francs, puisqu'ils étaient, la cour s'était convertie en 333, en Éthiopie. Et donc, la présence de cet empire chrétien donnait naissance en Occident à la légende du prêtre Jean. C'est pas, vous disiez qu'il y avait un royaume gouverné par un prêtre. Mais c'était à peu près vrai, puisque l'empereur d'Éthiopie devait être diacre dans l'église locale. Bon. Alors, toujours est-il que Griot est revenu avec ses cahiers et à partir de là a lancé le mouvement encouragé par Mauss, par Rivet, le directeur du Musée de l'Homme, qui ne s'appelait pas encore le Musée de l'Homme, à ce moment-là, ça s'appelait le Musée d'ethnographie, encouragé par un certain nombre de personnages autour de lui pour créer l'expédition Dakar-Djibouti. En 1931, qui a mis 2 ans pour faire 20 000 kilomètres et est revenu en 1933 en apportant la plupart, le fond encore, qui était le fond de la collection du Musée de l'Homme et qui vient de passer au Quai Branly. Mais avec cette optique de ne pas s'arrêter seulement à la valeur esthétique et la valeur des objets qu'on rapportait, mais de les replacer dans leur contexte, les faire comprendre. Alors c'est justement pour ça que, j'allais dire, un chercheur, tout chercheur africaniste comme tu l'es, a une vocation à venir au Musée de l'Homme pour faire participer le musée de son savoir.
Alors dès le début, la société a été adossée au Musée d'ethnographie. Et quel est l'objet en fait de la société aujourd'hui? C'est d'être un forum de passionnés, de savants de l'Afrique, ou c'est davantage?
Oui, c'est un forum surtout pour les jeunes, parce que nous avons une séance annuelle où chacun vient faire tour à tour la présentation de ses travaux. Alors, de ce point de vue-là, on a un palmarès assez bien, si on voit tout, assez convenable, si on voit tous ceux qui sont venus faire leurs premières armes chez nous, à commencer par Jean Rouch pour le cinéma, Griot lui-même, etc. Alors, actuellement, effectivement, nous essayons de voir ce qu'il y a de plus vivant dans la recherche africaniste, seulement elle s'est tout à fait éparpillée. Et par conséquent, l'intérêt de la société, c'est d'être une rassembleuse par rapport à toutes les institutions qui se sont créées et qui voient sous un certain angle le travail qu'on peut faire en Afrique. Par exemple, hier lundi, nous avons notre séance qui est le deuxième lundi de chaque mois. Nous avons eu affaire à un politologue africaniste qui nous a expliqué la promotion des élites politiques au Gabon, comment elles se recrutent, comment elles se connaissent. Et alors, toi, tu as des projets qui nous intéressent, pour que tu puisses venir les exposer, en particulier
Et quelle est la pertinence de la société des africanistes d'être centrée en fait sur l'Afrique seulement? Par exemple, mes propres travaux s'articulent entre... Je travaille sur les oasis, sur le Sahara, et le Sahara est la jonction entre l'Afrique du Nord et l'Afrique noire ou l'Afrique subsaharienne.
Oui.
Je travaille aussi, il y a une pertinence, puisque je travaille sur le monde arabo-musulman. J'ai débordé aussi sur le Proche-Orient, le Yémen. On voit que là, dans mon cas propre, je déborde de l'Afrique elle-même. Quelle est la pertinence à rester centré pour une société savante, à rester centré sur un continent?
Il faut bien que tu aies des divisions géographiques grossières, mais pour répondre à cette objection, nous avons quand même un des derniers numéros de la société, du journal des africanistes, qui est consacré à l'océan Indien. Donc aux Comores, c'est centré sur les Comores. Les Comores, évidemment, il faut faire le rapport avec le Yémen. Et si on étudie le Swahili, on étudie forcément l'arabe, puisque c'est une langue à racine arabe. Alors, on ne peut pas faire c'est comme entre l'Europe et l'Asie, on ne peut pas le trancher radicalement. Mmh. Hein. Est-ce que l'Arménie est asiatique ou européenne ? Est-ce que le Géorgie, bon...
Pour rester sur l'Afrique elle-même, peut-être que je me trompe, mais je crois que l'orientation était davantage à l'Afrique noire que sur... l'Afrique du Nord n'a pas été un peu laissée de côté, peut-être ?
On ne peut pas dire ça, parce qu'on a aussi un numéro spécial sur l'Afrique du Nord récemment, n'est-ce pas ? Évidemment, j'allais dire... Le cas de l'Afrique du Nord a été spécial pour les Français, puisqu'ils y ont voulu s'implanter, que l'Algérie a été divisée en départements français, que jusqu'à présent, on a des tensions à cause de ça, c'est pas avec l'Algérie même si les choses sont tout à fait apaisées avec la Tunisie et le Maroc, qui n'étaient que des protectorats. Il faut bien dire que le contre-coup de cette espèce d'annexion coloniale de l'Algérie va se faire sentir encore pendant longtemps.
Donc, c'est le cas sur l'Afrique subsaharienne ?
Pas de la même manière. Non, c'est pas de la même manière, puisque justement, il y en a eu aussi pour l'Afrique du Nord. Hein, Lyautey a valorisé les cultures locales, a tenu absolument à les mettre en avant, mais ça ne s'est pas fait à l'intérieur de l'Algérie tellement. Les gens qui valorisaient les cultures locales en Algérie étaient des membres de la société africaniste. Par exemple, nous avons eu Germaine Tillion. Mmh. Hein, Germaine Tillion était un des grands. Bon, elle s'est consacrée à l'Algérie, mais elle était mal vue du point de vue politique à cause de ça. Donc, c'était plus délicat, et ça reste plus délicat, de faire des travaux de Français sur l'Algérie.
Mais tout cela reste intéressant parce que ça montre que la sphère de la connaissance, la sphère de la fabrication de la connaissance scientifique n'est pas déconnectée du politique. Les scientifiques travaillent et les savants africanistes travaillent dans un contexte qui est toujours empreint de politique. Et ça s'est peut-être vu aussi au moment des rapatriements, c'est-à-dire que lorsqu'il y a eu le rapatriement des terrains, lors des indépendances, les anthropologues, les ethnologues ont eu, je crois, un statut un peu curieux. Ils n'ont pas toujours été bien ressentis et bien vus par les gens qui faisaient leur indépendance. Donc il y a eu un peu un rapatriement des terrains. Et est-ce que la société n'en a pas souffert à un moment ?
Non, pas trop. C'est-à-dire qu'une difficulté, c'était précisément d'avoir des membres de la société africaniste qui soit africain. Mais ça s'est fait dès le début. Nous avons eu, en 1930, déjà Léon Mba, chef de cercle, etc., au Gabon, qui est devenu président de la République du Gabon plus tard. Bon. Alors, dans la séance d'hier, on a mis 2 Africains sur 3 candidats. Et le problème est plutôt économique, c'est-à-dire que pour eux, c'est très difficile de cotiser et il faut faire comme pour les étudiants, des tarifs particuliers, bien entendu. Donc, mais on est très heureux d'en avoir et à ce moment-là, la distinction qu'on fait entre ethnologie, anthropologie, sociologie s'estompe forcément parce que là-bas, ce qu'on a fait en Afrique, et il y a des endroits où c'est tout à fait bien admis, c'était de la sociologie africaine. Quelle est la différence avec l'ethnologie ou l'anthropologie ? Je n'en sais rien. Actuellement, on fait en France de l'ethnologie urbaine et de l'ethnologie rurale. En ethnologie urbaine, j'ai mon ami Anne Rollin qui est professeur à l'université de Nanterre. On utilise exactement les mêmes méthodes qu'on utilise dans une ville africaine ou dans le fond de la brousse, observation participante, mise à la place de l'autre, essayer de voir avec le regard et la sensibilité d'autrui. Ça, c'est, je crois, le principal acquis même de morale de cette science qu'est l'ethnologie. Et ça, les Africains, ils sont très sensibles. Et quand ils ont affaire à des gens qui essayent de pratiquer cette démarche, ils les accueillent très fraternellement. Il n'y a pas de problème dans la pratique. D'ailleurs, tu dois le savoir toi-même dans tes enquêtes en Égypte et ailleurs. Tu n'as pas été trop mal accueilli, il me semble.
Non.
Oui.
Alors si on parle du présent, de la société, j'aimerais aussi que tu évoques le futur, parce que bon, la société des africanistes est une société savante. Il y a un côté presque un petit goût suranné de société savante. Et, sincère, je suis un peu provocateur, mais quel est l'avenir d'une société comme celle-ci ?
Mais d'abord, il faut qu'elle ait un présent pour avoir un avenir. Bon. Alors, le présent, c'est quand même que nous avons des positions qui sont techniques et pas politiques, enfin, tout en ayant sur des problèmes politiques des positions communes. Bon, ce qui m'a beaucoup frappé, par exemple, c'est que tous les membres de la société, il y en a quand même près de 400, bon, étaient d'accord pour une motion quand on a fait à Marcoussi, on a voulu réconcilier les Ivoiriens en France et non pas en Afrique même. Bon, à ce moment, c'était pour tous les africanistes une erreur de tactique. Ça ne pouvait aboutir qu'à l'échec. Pourquoi ? Parce qu'on connaît assez la manière dont ce que pensent les membres des sociétés africaines actuelles. En particulier, ils ont diabolisé la colonisation et tendent à la confondre avec l'esclavage. Donc, un pays ex-colonisateur ne doit pas, ne peut pas avoir une influence directe dans la politique intérieure des pays.
Ça, africains. C'est le constat que les...
Alors, on avait écrit une belle lettre là-dessus.
Voilà, alors les africanistes constatent, mais est-ce que... elle est écoutée.
Attention, ça c'est autre chose, c'est la responsabilité des politiques. Hein, si les hommes politiques veulent nous écouter, ils peuvent nous écouter, ils peuvent nous consulter. Ils nous consultent parfois. Je donnerai l'exemple du voile. Par exemple, on pensait que ce n'était pas utile de prendre une loi concernant le voile.
Et vous avez été consulté, la Société des africanistes a été consultée.
On a été consulté, mais les décisions politiques ont été différentes. Bon, en tout cas, on avait prévu que ce serait évidemment mal pris par les pays à majorité musulmane, forcément. Bon, on pouvait profiter des textes existants pour exiger que dans les collèges et lycées et écoles en France, n'est-ce pas, on impose certaines règles, comme de tout simplement de se décoiffer. Mon frère a été proviseur de lycée, il disait, bon, on peut exiger que les garçons comme les filles se décoiffent à l'intérieur de l'établissement, bah, parce que c'est une façon d'être sur pied d'égalité, et il y avait les textes étaient possibles. Mais alors les proviseurs, certains trop craintifs, avaient besoin d'être renforcés par la loi, voilà, c'est pourquoi la loi a été prise. Mais je pense que tous les africanistes, sur ce point d'ailleurs, comme sur l'affaire de Marcoussi, étaient d'accord. Donc nous avons quand même une espèce de communauté qui peut être entendue si, encore une fois, les politiques le veulent, mais ce n'est pas notre rôle de nous prononcer à la place des politiques.
Mais c'est une des vocations de la Société des africanistes de proposer son expertise ? Ça peut l'être ?
Elle la propose continuellement, si on veut. Hein, et nous avons des tas d'articles, d'ailleurs, dans le journal des africanistes qui sont engagés. Bon, je veux dire, quelles sont les forces actuelles de la Société des africanistes ? Sont la réunion dont je viens de parler donne la parole aux jeunes chercheurs, aux récentes découvertes. Il y en a beaucoup. Nous avons eu un exposé très intéressant qui fait voler en éclats certains mythes, n'est-ce pas, concernant le peuplement de l'Afrique, parce que l'analyse de l'ADN scientifique montre que, par exemple, les Bantous ne peuvent pas descendre des Égyptiens. Par contre, les Peuls ont beaucoup de gènes en commun avec les Irakiens, avec les gens du croissant fertile. C'est intéressant. Bon, alors là, on est quand même à l'avant-garde pour une recherche. Et puis, on publie quand même dans le journal des africanistes un article. De temps en temps, un certain Vincent Battestini nous a même donné très récemment un très bon article. Ben non, parle un peu de ton article là sur...
Alors, c'est un article qui parle de Siwa, une oasis berbérophone du Sahara, donc qui est aux confins, une oasis égyptienne aux confins libyens. Et qui avait vocation à souligner les évolutions du... alors, on va partir d'un... C'est un numéro consacré aux objets au Sahara. Et à ce titre, j'ai choisi comme un objet un peu particulier qui est plus une matière qu'un objet, c'est l'argile. Et montrer, en fait, ses usages à travers le bâti. Et de montrer en fait tous les phénomènes à partir de là, tous les phénomènes d'identité qui se construisent, qui se cristallisent autour de la représentation de ce que doit être le bâti, de doit être la maison, comment les évolutions du bâti au cours du siècle, d'un siècle qui a été très 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 pas seulement perturbateur, mais qui a été qui a entraîné une vraie révolution à Siwan, une petite oasis qui était sur son Ksar,
autour d'un petit fortin, quoi.
Voilà, voilà, une petite ville fortifiée. Et qui s'est, comme beaucoup d'oasis du Sahara, qui s'est étalé autour et puis répandu. Mais l'argile a été très concurrencée par l'introduction d'un nouveau matériau qui est aussi local, mais très décrié par les amoureux de Siwa, c'est-à-dire souvent des personnes étrangères, touristes ou même parfois savants, qui est la taube, qui est un calcaire équarri, en fait, un gypse de calcaire équarri qui est pris dans la montagne à côté et qui sert, qui a en fait des allures de parpaing. Donc le village lui-même s'est agrandi la distribution des habitations a changé totalement de configuration. Donc je travaille, et à travers ça, aujourd'hui revient sur le devant de la scène l'argile à travers une patrimonialisation de l'ancien bâti en recréant, en décidant ce qui est ou non le vrai style, si oui. Donc c'est un article qui traite de ces sujets. Voilà.
Oui, donc c'est, autrement dit, il y a eu une compétition entre l'argile et le quasi-parpaing. Mm-hmm. Alors il y a eu un moment, ça a paru plus moderne d'utiliser la formule qui ressemblait au parpaing, c'est ça ?
Oh, c'est beaucoup plus moderne d'une part et surtout beaucoup plus rapide et beaucoup moins cher.
Voilà.
Beaucoup moins cher.
Mais alors maintenant, on revient à l'argile dans un souci identitaire.
Pas tout à fait.
Non.
Ça, c'est encore très minoritaire et ce sont des couches de la population qui sont proches du tourisme.
Ah oui.
Mais c'est une identité qui est imposée de l'extérieur. Par les promoteurs du traditionnel ou
oui.
du folklore, en fait. Voilà.
C'est ça, d'un certain folklore.
Donc, on a en particulier, il y a deux types d'acteurs qui sont intéressés par cela, des acteurs marchands, en fait, des gens qui sont proches de mouvements environnementalistes et marchands, donc des hôtels, ce qu'on appelle les colodges. Dans des hôtels écologiquement corrects, on va dire.
Oui.
Et où on mélange toujours donc, dans cette idée le respect de la nature et. Mais c'est se fonde le respect des identités locales, mais en prenant toujours sa source loin dans le passé. Et le deuxième acteur, c'est un acteur institutionnel et politique qui, lui, regarde les cordons de la bourse et se dit que le tourisme fonctionnera beaucoup mieux si on accorde à un paysage traditionnel au bâti de Siwa.
Oui, oui. Oui, oui, alors ça, moi, ça m'intéresse parce que je connais effectivement des architectes algériens, tunisiens qui veulent essayer de faire la même chose, enfin de reprendre ce qu'il y a de traditionnel pour faire des bâtiments modernes.
Mm-hmm.
Voilà.
Oh, c'est la grande tendance en ce moment.
Oui.
Mais bon, je ne porte pas un jugement de valeur dessus, mais je m'amuse à analyser tout ça.
Voilà. Bon. Et ben donc, merci beaucoup pour ta participation à la Société des Africanistes et au Journal des Africanistes.
Merci à toi et merci pour tous ces éclaircissements. Thank you.